Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de Force 7, le magazine régional d'information de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, le belvédère de l'ancien pont sur la Durance de Manosque a été inauguré. Le béton célèbre désormais la nature. Explication dans notre reportage. Le plateau de Valensole est prêt pour son festival Poésie et Chansons. Rencontre avec Jacques Beck dans un instant. À Manosque, la résidence littéraire de Célia Oudard touche à sa fin. Mathieu Marc l'a interviewé sur ses mois basalpins. En juillet et août, les Hautes-Alpes vont vibrer en musique variée grâce au festival de Chaillol. Son directeur, Michael Dian, est interviewé par Chris Alessandri. Toujours dans les Hautes-Alpes, le grand Briançonnais va vivre un nouveau rendez-vous musical. Tatiana Fricot présente Bruit Blanc au micro de Susanna Wright. Manosque, le pont aux oiseaux.
Ils sont bien visibles et ceux-là ne migreront pas de sitôt. Des oiseaux magnifiquement peints grâce au graffeur Julien Marin et trois jeunes de la DSEA 04 ornent les piles de l'ancien pont de la Durance à quelques mètres du nouvel ouvrage, bien plus sûr que son ancêtre. Le message est poétique, esthétique et écologique. L'idée de conserver une trace du passé, en l'occurrence deux piles en béton, de les décorer et les habiter avec des nichoirs à martinets pour l'une et une tour d'observation pour l'autre est pertinente. Car le lieu, désormais équipé d'un belvédère, valorise un cours d'eau essentiel à la Provence et une faune à connaître et protéger. L'apport de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, au projet s'est avéré crucial. Des panneaux présentent l'ancien pont et la faune volante, alors que des vestiges en béton entièrement désamiantés rappellent la colossale stature de l'ancien édifice. Inauguré en septembre 2019, le nouveau pont a coûté 15,5 millions d'euros contre les 17 envisagés au départ. Le coût englobait la démolition de son prédécesseur et la réalisation du belvédère. À la baguette, le paysagiste Rémi Dutoit et bien sûr les services du département, l'Association du patrimoine manosquin et l'entreprise Cozzi. Le président du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, René Massette, puis le maire de Manosque, Camille Galtier, ainsi que Rémi Dutoit, évoquent cette réalisation. René Massette, qu'est-ce qui a conduit le département à faire ce chantier particulier sur les anciennes piles de l'ancien pont de Manosque ?
Eh bien, finalement, ce chantier est le chantier le plus emblématique du département en matière de reconstruction de pont. C'est le plus cher, 17 millions. Et il y avait l'ancien pont qui, moi, me plaisait. Et quand je suis venu à une des visites, je dis on pourrait le garder pour faire la piste cyclable sur l'ancien pont. On m'a expliqué que comme ce n'était pas le même écartement des piles, on ne pouvait pas le faire. Et puis, chemin faisant, on a dit, mais on pourrait garder un vestige. Comme il y a au pont de Mirabeau, par exemple, quand on va à Aix, il reste une pile, ou le pont d'Avignon, qui est plus ancien. On dit, il faudrait garder quelque chose. Et cette idée a fait son chemin. Et finalement, la direction des routes, le paysagiste et tout, on dit, ben, on pourrait essayer de travailler avec les éducateurs de rue en particulier pour faire quelque chose de sympa. Et puis, ils ont pensé aussi à la LEPO, parce que c'est un couloir de migration. Et voilà comment ce chantier a été mis en œuvre là-dessus. Je tiens à signaler que ce chantier est compris dans le coût total de l'aménagement du pont.
Alors c'est évidemment une action patrimoniale, c'est aussi, vous l'avez dit, urbanistique, mais c'est aussi quelque part environnemental pour valoriser justement l'environnement autour de la Durance.
Exactement. Bon, là on parlait des oiseaux, mais dans la rivière il y a la prong, de l'autre côté il y a je ne sais quelle bête, bon, dans le canal, et finalement... Je crois que Rémi Dutoit l'a dit, c'est une nouvelle façon de voir les choses. On essaie d'intégrer tous les éléments, le patrimoine, l'environnement, la reconstruction et tout, pour faire quelque chose de beau. On essaie d'aller vers le beau et puis de laisser une trace qui sera visible là aussi, puisque tous les éléments ont été mis là-dessus aussi. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça permet de garder la mémoire et de garder l'histoire. Mais il faut pour cela qu'il y ait des gens qui soient convaincus de ce que je viens de dire là-dessus, que ce soit la ville, que ce soit l'architecte, parce que finalement, si les gens ne sont pas convaincus, on ne peut rien faire là-dessus. Voilà.
À vos côtés, Camille Galtier, le maire de Manosque. C'est un bel appelant pour Manosque, ça, à quelques kilomètres de la ville.
C'est un très bel outil qui va servir, je crois, pour la Ligue de protection des oiseaux. Et ça va leur donner aussi une transition avec, à proximité, nous avons la zone humide avec le lac de pêche. Et ça va, je crois, permettre d'avoir une fluidité de moyens. Et tout l'enjeu est là, dans les 5 prochaines années, d'aller retravailler le projet du lac de pêche, parce qu'il est aujourd'hui totalement abandonné. Et je pense que ça sera une belle cohérence d'avoir cet aplomb sur la Durance, le lac de pêche, peut-être aussi un travail à faire sur le lac des Vanades, et ça permet d'avoir de vrais beaux outils à la fois pour les enfants, parce que la LPO travaille avec les enfants des écoles de la ville de Manosque, avec les autres écoles aussi à proximité de la ville centre, et ça permettra, je crois, d'avoir un bel outil pédagogique, parce que la préservation de l'environnement, que ce soit au département, à la région, à la ville, à l'agglomération, je crois que tout le monde doit prendre sa part.
C'est effectivement un beau chantier qui permet de mélanger de manière assez intelligente plusieurs versions, comme effectivement l'environnement, le patrimoine, l'urbanisme, la circulation.
La circulation sur le volet du pont, et ça c'était une livraison qui a eu lieu en 2017, je crois, mon cher René. Je rejoins le président du département sur le volet patrimonial, de dire il y a eu des choses qui ont été faites avant, elles ont dû être changées, elles ont dû être déconstruites pour construire à côté. C'est le cas sur le pont Mirabeau, et je pense que c'est bien que l'on puisse garder cet héritage pour que tout le monde ait souvenir de ce qu'il pouvait y avoir avant.
Garder cet héritage, c'est important, mais aussi d'avoir une vision sur l'environnement. Et là, c'est le travail de Rémi Dutoit, le paysagiste. Comment vous avez procédé pour faire cette réalisation ?
Au départ, il y avait des choses qui pouvaient apparaître comme des contraintes, qui étaient l'étude d'impact. Un projet comme celui-là, il y a une étude d'impact. On est aussi dans le cadre de la loi sur l'eau. Donc il y a beaucoup d'éléments qui étaient imposés. Mon travail, c'était de les transformer en opportunités. C'était pas d'en faire des contraintes. C'était de se dire comment est-ce que ces éléments, ces mesures compensatoires, par exemple, on peut s'en servir pour, au contraire, valoriser le projet. Être dans la promotion de l'environnement plus que dans la protection de l'environnement, en fait. Donc ça a été un premier travail. Et puis, au moment de la conception, et puis ensuite, je savais que ça allait être un temps long. Il y a eu beaucoup d'échanges avec la maison technique de Fort-Calquier, avec Philippe Oran, le département, pour qu'on ait des temps réguliers de points sur, on va dire, l'état du frigo, quoi. C'est-à-dire quels sont les matériaux qui sont disponibles et comment est-ce qu'on peut, à plusieurs étapes du projet, les recycler, les réutiliser, de quelle manière, pour faire avec le maximum et le moins contre possible, en fait.
Alors il y a quelques gros cailloux qui sont restés justement pour témoigner de ce passé. Il y a aussi un travail esthétique qui a été réalisé avec cet appelant, je le disais tout à l'heure, avec des oiseaux magnifiques, des grues, des mésanges ou bien des hirondelles et martinets.
Oui, là, et là encore c'est venu, je m'en souviens maintenant, de l'étude d'impact. C'est-à-dire qu'il y avait une nécessité de replanter des sujets parce que ces piles sont des repères aussi bien pour les chauves-souris que pour les oiseaux migrateurs. Et quand il y a eu cette volonté de les conserver, tout de suite on s'est dit, il y a moyen de faire un signal, de renforcer le signal en transformant le passé en futur avec cette nécessaire maintenant attention qu'on porte aux vivants et aux oiseaux, et en faire carrément en fait des habitats, hein, puisque dans les piles il y a des nichoirs qui sont disposés, et puis un signal. C'était important d'avoir un volet on va dire, moi j'aime bien partager des projets qui aient des ambassadeurs, et le travail avec la DSEA, c'était une belle manière de faire venir des jeunes de Manosque sur ce point-là et de les faire s'investir, et derrière le regard, je pense, sur ces piles, il est changé, et il y a une appropriation qui est importante dans les projets et dans celui-là en particulier.
Le pays des lavandes va résonner en poésie et chansons.
Chaque année, le festival où l'on pense, dit et chante dans la langue de chez nous, à l'instar d'Yves Dutheil, le parrain de cette édition, se déroule sur le plateau de Valensole. Il se tient durant la dernière semaine du mois de juin. au moment où les champs de lavande et de sauge sclarées sont en fleurs et ravissent les sens. C'est la 7e édition et artistes et organisateurs sont heureux que le festival Poésie et Chansons au Pays des Lavandes puisse enfin accueillir le public, ce qui n'a pas été possible l'année dernière pour les raisons que vous devinez. L'inauguration a lieu samedi 19 juin, 18h30 à Allemagne en Provence. Président des poètes des Hautes-Terres, Jacques Beck répond aux questions d'Odile Frison et présente le programme de la saison.
Jacques Beck, poète des Hautes-Terres, mais également l'organisateur du festival Poésie et Chansons au Pays des Lavandes.
Je suis le président de l'association, donc c'est vers moi que remontent un peu tous les problèmes techniques, logistiques, caractériels, mais tout ça lié à l'organisation d'un festival. C'est vrai que c'est, je le dis avec ironie, mais c'est complexe parce que on est multisite, hein, donc il y a fort heureusement beaucoup de mairies qui rentrent dans le jeu et beaucoup d'associations locales, hein, mais ça nécessite aussi un management. C'est un management un peu particulier. J'ai fait du management dans ma vie, mais là, c'est un management soft, quoi. C'est un management tout en... Il faut donner envie aux autres de vous accompagner dans une aventure un peu particulière qui est ce festival, sa création, puis sa consolidation, et voilà. Et là, on en est à la 7e édition.
Alors, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Il y a eu les réservations peuvent se faire. Il y a des passes qui sont recommandées.
Alors, il y a des passes qui sont recommandées parce que il y a forcément des places limitées, ne serait-ce que dans les spectacles du matin, puisqu'on en a systématiquement le matin au cinéma de Valensole des artistes qui viennent présenter leur œuvre une heure. Et on est dans la jauge des cinémas, 65%. 65% de 80 places, vous avez à peu près le compte. Les passes sont prioritaires, donc je ne saurais trop conseiller aux gens qui veulent participer à tous les spectacles de prendre le pass, outre que c'est très avantageux sur le plan financier, puisque le pass est 65€ et intègre aussi le concert d'Yves Duteil qui, lui, coûte 25€ l'entrée, quoi. Et puis tous les autres concerts à 12€ le soir, donc c'est largement intéressant.
Vous êtes aidé financièrement pour que ce festival puisse exister?
Nous sommes aidés financièrement. Nous sommes aidés de deux manières. Financièrement par l'agglomération des LVA, Durance-Luberon-Verdon agglomération, qui nous soutient fidèlement. La région sud, qui nous soutient également. Le département. Et puis toutes les communes qui nous ouvrent leurs portes, enfin qui nous mettent à disposition les salles gratuitement, leur matériel, les heures d'employés municipaux, etc. Et ça compte énormément. Ça se voit pas beaucoup, mais ça compte énormément. Et puis effectivement, toutes ces communes, d'ailleurs on peut les citer. Donc il y a Valensole, où se déroulera le dernier concert avec Yves Duteil, Groulx-les-Bains, Roumoules, Puymoisson, Riès, Allemagne en Provence, Quinçon, Saint-Martin-de-Brome et Sainte-Croix-du-Verdon cette année. Et puis ça peut changer d'une année à l'autre, bien sûr.
Alors il y a aussi des personnes qui viennent de loin souvent pour voir ce festival. Il y a évidemment les gîtes à réserver et ce qui est maintenant possible, le couvre-feu n'étant qu'à 23h, finalement ça ne va pas poser de problème.
Alors pour faciliter justement le fait que les gens viennent de loin, nous avons désormais pris l'option de faire le festival du samedi soir au vendredi soir inclus, ce qui permet de louer des semaines, enfin dans la modalité traditionnelle de location. Pour ce qui concerne les spectacles du soir et par rapport au contexte sanitaire, nous avons pris l'option de tout faire en extérieur, donc sur des zones suffisamment vastes pour qu'il n'y ait pas de problème de concentration illicite, on va dire, hein. De plus, tous les concerts auront lieu à 20h. Nous mettrons évidemment à l'entrée, pour ceux qui l'auraient oublié, des masques et puis du gel hydroalcoolique, comme il se doit. Et je dois souligner aussi que la majorité des gens qui fréquentent le festival sont, on va dire, au-delà de 50 ans, ce qui nous permet d'éviter certaines turbulences. On a affaire à un public qui est plutôt assagi. Voilà, donc tout ça fait qu'on peut envisager un festival qui se déroulera très normalement.
Parmi ce festival, donc Yves Duteil, grand nom de la chanson française, qu'on pourra retrouver en clôture, mais il y a aussi d'autres personnes, on peut dire stars montantes de la chanson française.
Stars montantes, oui, parce que par exemple, on commencera avec Régis Manarini, qui est évidemment bien moins connu que Yves Dutheil, mais qui a un talent fou, qui viendra d'ailleurs avec tous ses, je dis son orchestre, mais lui dit ses copains, donc voilà, ça donne une idée un peu de la dynamique. Régis fait des textes extrêmement talentueux. Pour les gens qui le découvriraient, allez voir sur internet par exemple Rideau, qui est une chanson métaphorique sur une séparation, et vous comprendrez tout de suite la qualité de cet auteur. Il y a, le matin, il y a Alain Vitier qui va chanter Le Prest et qui chante de façon remarquable Alain Le Prest. C'est aussi une façon de rendre hommage à cet auteur trop peu connu et qui est Alain Le Prest. Il y a, par exemple, à Puymoisson, je m'excuserai de ne pas tous les citer, mais Urbain Rinaldo, pianiste classique et compositeur antillais qui interprète ses propres œuvres et celles de poètes antillais et autres d'ailleurs, russes aussi, mais Aimé Césaire, Max Ripon, Guy Tyrolien. Il y a également Frédéric Bobin, lui aussi star montante à Saint-Martin-de-Brome. Il y a Alexandre Carsanti et Renaud Erwens qui nous proposeront un spectacle burlesque à Quinçon. Enfin, et puis Jean-Marc Demers-Ropian qui chantera et qui rendra un hommage à Aznavour. Tout ça, ce sont des gens qui ont de grandes qualités. Et on terminera bien sûr avec Yves Dutheil, qu'on ne présente plus, avec tout son talent et qui est très significatif, son œuvre est significative de ce que l'on souhaite faire dans ce festival Poésie et Chansons.
On rappelle un numéro de téléphone ou une adresse mail pour réserver.
Oui, alors bon, adresse mail, je ne saurais trop recommander aux gens de réserver en écrivant à contact@poetesdeshautesterres.fr ou par téléphone au 06 86 47 13 12. Je peux répéter, 06 86 47 13 12.
Entre Alpes et Provence, l'itinérance musicale.
Du 17 juillet au 12 août, le Festival de Chaillol ouvre ses portes. Scène conventionnée art en territoire depuis 2019, l'espace culturel de Chaillol propose aux habitants des Hautes-Alpes et à tous les amoureux de musique une programmation musicale riche et diverse. Avec le concours des collectivités haut-alpines, il promeut une approche généraliste et panoramique de la musique. Répertoires classiques et contemporains, musique du monde ou traditionnelle, improvisée, etc., avec la spécificité de l'itinérance sur le 05. Michael Dian, directeur de l'espace culturel et du Festival de Chaillol, répond aux questions de Chris Alessandri et rappelle l'importance de l'accroche donnée au festival « On ouvre, on s'ouvre ».
Ah oui, c'est complètement ça. C'est vraiment une renaissance, évidemment très attendue par les artistes, par les habitants, les publics. On a été privés, pour les raisons qu'on sait, l'année dernière, d'une édition qu'on avait préparée amoureusement. On est très très heureux, très impatients aussi, vraiment, de retrouver les chapelles, les salles des fêtes du territoire du Pays Gapençais et d'accueillir les artistes, tous les habitants et les publics pour cette très belle édition, qui est aussi notre 25e. On n'a pas vu venir ça, mais comme on a sauté la 24e, on est allé directement à la 25e et en l'écrivant, on s'est dit, mais mon Dieu, ça fait déjà un quart de siècle de musique en partage dans les Hautes-Alpes. Donc on est très, très heureux, vraiment très heureux.
Michael, vous le disiez, 25e édition, avec cette volonté toujours de votre côté de se renouveler une édition. Donc il faut surprendre. Comment est-ce que vous faites pour vous remettre en question à chaque fois?
Oui, c'est comme dans la vie en fait. C'est dans la vie d'ailleurs. Ça se renouvelle parce que c'est vivant, parce que ça s'adapte en permanence, parce que ça reste présent dans le territoire, dans les territoires, c'est-à-dire à la fois le territoire des Hautes-Alpes qui est riche de ressources culturelles, de personnalités, de gens qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui nous inspire aussi, et puis aussi les territoires de la musique, de la création musicale qui sont effervescents. Malgré cette longue période d'empêchement, il s'est passé énormément de choses. On a accompagné beaucoup d'artistes et de projets en résidence dans le territoire, on les a vus grandir, on les a vus se développer, parfois des projets se sont initiés. En fait, le renouvellement, c'est un approfondissement et une amplification presque de tout ce qu'on a l'habitude de présenter sur de grandes priorités, de grands axes. Le premier, c'est de présenter la diversité des musiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire les musiques de création, la musique contemporaine, la musique de chambre aussi, le patrimoine musical, les musiques du monde, les musiques improvisées, le jazz, les musiques qui viennent de l'oralité, ça c'est vraiment. Et puis d'un autre côté, le deuxième axe, c'est un projet qui est totalement itinérant. Nous sommes une équipe sans équipement, on a l'habitude de dire ça. Ça veut dire qu'on chemine de village en village et on invite tous ceux qui ont envie de découvrir la musique, de découvrir aussi les petits recoins, les coins secrets du territoire dans lequel on pose avec beaucoup de délicatesse les projets d'artistes qu'on accueille.
Vous avez un objectif avec toute votre équipe, bien sûr. Il y a cette volonté de découverte, de faire découvrir également, et ça depuis le début.
Oui, c'est un projet qui s'attache vraiment à accompagner les artistes d'aujourd'hui dans ce qu'ils façonnent. Vous savez, il y a cette très belle phrase, la musique, c'est le bruit du monde. D'une certaine manière, se mettre à l'écoute des musiques d'aujourd'hui, c'est une certaine façon, d'une certaine manière, d'entendre ce qui palpite aujourd'hui dans le monde. Et on voit des projets d'artistes qui viennent questionner les différents langages musicaux, parfois venus de très loin, parfois au cœur de nos traditions musicales locales. Et tout ça se met en correspondance, en résonance, ça offre des perspectives nouvelles, des perspectives d'écoute. Mais derrière cette perspective d'écoute, il y a une certaine idée de la manière dont on habite le monde. Je crois que la musique, c'est pas simplement une vibration de l'air, c'est un langage, ce sont des langages, et ce sont aussi des adresses, c'est-à-dire des manières d'aller interpeller les citoyens, les habitants que nous sommes dans nos territoires.
Michael Dian, ces saveurs, pour les déguster, il faut vraiment tout un contexte, il faut une harmonie. Vous attachez énormément d'importance au lieu où vont se produire les artistes.
Mais oui, parce que moi je crois, et je sais que l'équipe avec laquelle je travaille depuis très longues années, je crois à l'esprit des lieux. Quand on est dans un territoire comme les Hautes-Alpes, qu'on a la chance de pouvoir compter sur le petit patrimoine des petites chapelles, des petites églises, mais aussi de bâtiments ou d'édifices plus somptueux, je pense au château de Tallard par exemple, ou au château de Montmort, la cathédrale de Gap bien sûr, ce sont à chaque fois des écrins qui sont comme nos premiers instruments de musique. C'est déjà entrer dans ces lieux-là qui sont chargés d'un silence particulier, habité. Ce ne sont pas des lieux anodins. On a conscience de la chance de pouvoir compter sur cette multitude de petites chapelles, de petits lieux et aussi de très beaux sites dans lesquels la musique vient résonner. Et c'est un spectacle total parce qu'il y a à la fois cette proximité très grande quand on est dans des lieux très intimistes et puis en même temps la majesté de certains lieux plus emblématiques, plus puissamment charpentés d'un point de vue architectural.
Alors ça donne bien sûr envie d'assister au festival. Alors un petit survol, Michael Dian, du programme parce qu'il est très très fourni, hein, du 17 juillet au 12 août.
Alors c'est difficile de choisir parce que tout est très beau évidemment, mais en tout cas on commence le 17 août avec un grand concert d'ouverture qu'on a voulu vraiment populaire au sens le plus noble du terme. C'est un grand orchestre de tango qui s'appelle l'orchestre Silbando. Donc c'est vraiment deux concerts, le 17 et le 18 juillet. 17, c'est sur le champ de foire, la place du champ de foire à Saint-Bonnet. Le 18, dans le très bel écrin du château de Tallard, dans l'enceinte du château. Et c'est un orchestre de tango. Et c'est vraiment une invitation. Alors c'est en plein air, c'est vraiment pour toutes les oreilles. Je pense que c'est une manière de renouer avec quelque chose de à la fois de sensuel, de magnifiquement écrit. Et c'est porté par une jeune musicienne compositrice qui est au piano, qui est Chloé Pfeiffer, qui mène cet ensemble avec vraiment une maestria extraordinaire. Donc c'est aussi une manière de faire entendre le travail des femmes, qui est quelque chose qui est très important pour nous. Et puis un peu plus tard, alors je vais citer je vais forcément en oublier beaucoup parce qu'on a plus d'une quinzaine de projets qui sont accueillis. On a le très beau duo de Franck Tortillier, Micha Fitzgerald Michel. Franck Tortillier, c'est un vibraphoniste de jazz, compositeur lui-même, et son duo vibraphone-guitare a été accueilli en résidence pendant l'année, pendant le confinement justement, pendant cette période de contrainte, et on en recueille les fruits absolument magnifiques. On va cheminer comme ça. Je peux donner aussi un autre exemple, un duo très original, Vincent Berdemander à la mandoline et Grégory Daltin à l'accordéon. Et alors eux, ce sont vraiment deux figures, chacun dans leur instrument. Ils ont inventé un programme qui est assez étonnant avec les musiques de films de Vladimir Kosma, qui est un très grand compositeur. On connaît La Boum, on connaît, enfin bref, énormément de ses grands succès. Mais c'est aussi un compositeur qui a écrit énormément de musique de chambre, de musique d'orchestre, etc. Et face à ce répertoire-là, on a invité François Rosset, qui est un des grands improvisateurs français, compositeur aussi, élève de Messiaen d'ailleurs, à écrire quelques pièces pour ce duo. Donc vous voyez, on est vraiment à chaque fois c'est un peu comme la cuisine. On associe des saveurs, on essaie de saupoudrer d'un tout petit peu d'épices ici, de relever les goûts par là pour que les assiettes soient à la fois colorées, très belles et qui donnent envie de les savourer, de les déguster. De nombreux partenaires, évidemment le ministère de la Culture, mais aussi la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont deux partenaires extrêmement solides et importants, le département des Hautes-Alpes, la communauté de communes du Champsaur et Valgaudemar, la SACEM, puis toutes les collectivités, les communautés de communes qui nous reçoivent, parce que vous aviez compris que nous sommes très itinérants, donc cette hospitalité qu'on nous offre, offre, on la doit aussi à tous nos élus de montagne qui sont attachés à ce que dans leur territoire, il y ait une vie culturelle de très bonne qualité.
De quelle façon vous contactez ?
Alors, il y a plusieurs manières. La porte d'entrée la plus simple, c'est évidemment le site du Festival de Chaillol, tout simplement festivaldechaillol.com. Et à partir du site du Festival de Chaillol, vous avez une billetterie en ligne. Je rappelle des tarifs qu'on veut vraiment le plus accessible. C'est le plein tarif est à 12 euros et le tarif réduit est à 8 euros. Et c'est gratuit pour tous les enfants de moins de 12 ans. C'est vraiment pour que vous puissiez venir en famille et que votre été soit aussi culturel qu'ensoleillé.
La résidence de Célia Oudard se termine à Manosque.
La résidence de la romancière Célia Oudard touche bientôt à sa fin au sein du centre Jean Giono à Manosque. Depuis janvier, elle est l'invitée des correspondances pour parfaire l'écriture de son prochain livre. Elle a déjà édité de nombreux ouvrages, tous chez POL, à l'exemple de « Tout un monde lointain » en 2017 ou encore « Le scribe » paru l'année dernière. Durant son séjour à Manosque, Célia a participé à diverses interventions, des ateliers d'écriture en balade dans les collines ou lors de cueillettes de plantes, ce qui a été l'occasion pour elle de rencontrer des habitants et habitantes de la région et de partager sa passion de la littérature. Elle revient sur ces quelques mois au micro de Mathieu Marc.
Nous sommes dans le dernier mois de votre résidence. Où en est votre processus d'écriture ?
J'ai l'impression d'en être toujours au début, mais on va dire que c'est un début qui commence à prendre forme. C'est-à-dire que je suis arrivée avec juste quelques idées en tête. Je venais de finir un livre. D'habitude, je laisse une sorte de friche comme ça, reposer un petit peu les idées. Mais c'était une telle chance de pouvoir être ici, sortir de ma vie quotidienne, du confinement en réalité. Hein, ça a correspondu au même moment. En fait, je me suis mise à écrire ce projet qui était juste à l'état naissant. C'est une chance pour moi d'avoir du temps, de pouvoir assister au printemps qui va occuper une place centrale dans mon prochain roman.
Vous parliez du confinement. En même temps, c'est un moment assez spécial, une résidence. J'imagine qu'il y a aussi une dimension de solitude. Vous passez d'une solitude à l'autre, même si j'imagine qu'elle est différente et vécue différemment aussi.
Ah oui, ça n'a rien à voir. Être arraché à son quotidien et être au contact de cette lumière, même dès mes premiers temps au mois de janvier, c'était très, très enthousiasmant, très stimulant. Et physiquement, ça a produit quelque chose de très fort dont j'ai essayé de profiter et de faire profiter mes écritures, mes réflexions. Mais c'est bon, on passe autant de temps à lire, prendre des notes qu'à réellement écrire quand on est spécialement au début d'un nouveau texte. Mais j'ai le sentiment de faire un cadeau à ce prochain livre. D'autant que je voulais le situer entre le Jura suisse et je ne savais pas exactement où en France, mais dans un paysage proche de la montagne, parce que le point de départ de ce livre est né justement en Suisse en faisant une balade et en voyant des fleurs de montagne, des fleurs sauvages. Ce motif que j'avais peut-être en moi depuis un moment, parce que j'ai souvent été très émue en voyant des fleurs en me baladant, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi ça a insisté et ça s'est invité comme étant, je ne sais pas, peut-être au cœur, oui, de ce livre qui prenait corps tout doucement dans mon esprit. Et ici, sachant que je pourrais assister au printemps dans les Alpes de Haute-Provence, tout a été favorable. Et donc, je me suis dit que j'allais pouvoir observer ces fleurs. Et voilà, c'est comme une sorte de... Ah, pour ma palette, c'était inespéré.
Et là, vous êtes au début d'un processus d'écriture qui va durer un certain temps ?
Oui, sûrement. En général, je travaille pendant un an et demi, deux ans, jusqu'à la remise du manuscrit à peu près. Mais il arrive qu'il y ait des textes plus courts comme ça qui surgissent. Mon prochain livre, je l'ai écrit en 3 mois, mais il y a eu tout un temps d'approche comme ça, mais c'est un court récit. Mais les romans, oui, j'ai besoin d'un temps d'élaboration, etc.
Vous êtes en résidence aussi pour participer à des interventions, à des ateliers et des rencontres. Comment ça s'est passé ?
Ce qui était très, très plaisant et assez rare, c'est que j'ai pu totalement les inventer moi-même. Bien sûr, en dialoguant avec l'équipe des correspondances, mais étant donné le contexte sanitaire, la question des ateliers d'écriture était quand même compliquée, puisqu'on ne pouvait pas se réunir à l'intérieur. Et donc, étant donné aussi mon intérêt pour des balades, pour aller voir des plantes et des fleurs, j'ai imaginé que peut-être on pourrait... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des ateliers d'écriture, mais en tout cas, c'est des occasions d'écrire et de prendre des notes, comme on ferait des croquis, en se baladant. J'ai eu l'idée de d'inviter aussi des, alors soit une cueilleuse, soit une botaniste, ou un guide de randonnée de haute montagne comme au Bleuet. Puis moi, j'en profite pour faire entrer un public qui peut ne pas du tout être un public de lecteurs ni d'auteurs amateurs, et des gens qui seraient simplement curieux ou qui aimeraient la nature et auxquels je proposerais simplement l'expérience, en distribuant des carnets, de noter 2-3 choses ou de décrire une plante. Et en réalité, on fait des arrêts comme ça pendant les balades, et en fait ce sont bien plus que des notes en réalité que les gens écrivent. Très souvent, ce sont des amorces de récits. Gwen Ledez, qui est cueilleuse et qui vend ses tisanes au marché de Manos, qui a celui de Fort Calquier, on me l'avait indiqué comme quelqu'un qui était une experte enfin dans ce domaine, mais c'était la première fois par exemple qu'elle elle transmettait aussi son savoir autrement que sur son stand. Elle nous a proposé un parcours à Man où on a herborisé et ramassé avec elle les plantes qu'ensuite elle allait faire sécher. Et après un pique-nique, moi, j'ai pris le relais en proposant un atelier d'écriture à partir de l'expérience de la cueillette avec elle.
Et pour préciser, le guide de montagne, c'est donc avec Arnaud Poupouneau. Il y a eu aussi d'autres formes d'intervention ?
Oui, j'allais dire plus statique, mais pas moins vivante. Avec le centre social de Manosque, au Céret, la cité des Céret, on a fait tous ensemble un atelier cuisine. C'était vraiment un moment mais hyper chaleureux. Et puis avec le même groupe, quelques jours plus tard, c'est-à-dire hier, on s'est retrouvés dans un jardin partagé. J'ai proposé d'écrire quelques lignes sur un souvenir de jardin, une plante, un insecte et un outil de jardinage. Et auprès d'un public qui, je pense, n'est spontanément pas du tout familier des correspondances. Et tout d'un coup, j'ai entendu même le mot correspondance, comment d'une certaine manière, je tissais un lien à travers juste ma présence entre ce que c'est que ce festival, l'écriture et ce moment de partage qui quand même aboutit à des mots ou à des évocations. Et j'étais là pour les encourager, les entendre. C'était vraiment très beau, très précieux, très simple.
Pour la suite, Célia Audard, on va vous retrouver de nouveau à Manosque.
Oui, je crois, en septembre, à la fois pour évoquer ce qui s'est passé pendant la résidence et puis pour accompagner ce nouveau livre. Je vais peut-être, hors les murs, proposer ou bien une balade ou bien en tout cas une intervention qui aura un lien avec tout ce que j'ai vécu ici. Et je pense que je ne revivrai plus jamais le Festival des correspondances de la même manière. Enfin, j'ai déjà une histoire avec Manosque et les alentours, parce que voilà, j'ai été beaucoup sur les chemins aussi, donc c'est tout un territoire que j'ai arpenté, et ça je crois que ça va, c'est pour toujours cette histoire.
Blanc va résonner au sommet du Grand Briançonnais.
Organisateurs de l'Altitude Jazz Festival, les Décablés se sont unis à la phase B, basée à la MJC de Briançon, pour concocter la première édition de l'événement Bruit Blanc. Au total, 3 mois de découverte musicale à pleine fréquence dans les vallées du Briançonnais pour fêter la naissance de ce nouveau projet de musiques actuelles sur le territoire. Du plus petit murmure au grand vacarme, le public est invité à des découvertes musicales éclectiques dans les salles, les jardins ou les écoles. Coordinatrice de la programmation Bruit Blanc, Tatiana Fricot répond aux questions de Susanna Wright.
Tatiana, un grand changement concernant la phase B avec la naissance du Bruit Blanc.
Eh oui, la naissance de Bruit Blanc, c'est vraiment maintenant. Et donc c'est aussi un travail de longue haleine, depuis 2 ans, où on est sur un travail de structuration des musiques actuelles avec l'association Les Décablés et le pôle musique actuelle de la MJC, la phase B. Phase B en fait, bascule au sein de l'association Les Décablés pour ne faire qu'un, pour mutualiser nos postes, pour, entre guillemets, être plus forts tous ensemble et que ce soit plus cohérent, en fait, sur le territoire. Et également aussi, on garde toujours ce volet du projet musique actuelle de la MJC, l'accompagnement des musiciens, des artistes, avec un volet sur de l'accueil de groupes en répétition, sur de l'enseignement, des cours de musique, des stages, masterclass, etc. Donc il y a ce volet qui est très important pour nous aussi. Et puis également, on aura donc forcément, on va faire vivre cette salle de la phase B qui va garder le nom en tant que lieu et plus en tant que projet musicatuel, mais en tant que lieu. La phase B, ce sera voilà, une entité du projet où on aura une programmation régulière au sein de cette salle. Et puis, il y a un autre volet en fait, intéressant là, sur le développement du projet musicatuel Bruit Blanc. On a donc pour aboutissement là, de mettre en place une plateforme numérique qui permettrait voilà, de centraliser beaucoup d'informations qui concernent le secteur des musiques actuelles, répertorier les artistes, voilà, des fiches pratiques pour orienter les artistes dans leur développement, avoir des agendas qui permettent de savoir un peu tout ce qui se passe en termes de musique actuelle sur le territoire, etc. Donc voilà, on espère qu'elle verra bientôt le jour, mais ce sera vraiment un outil très pratique, je pense, pour tout le secteur des musiques actuelles, artistes, publics, spectateurs, etc.
Avec la naissance de Bruit Blanc, beaucoup de concerts sont programmés pour cet été. Quel est le programme ?
Eh bien, du coup, oui, en effet, c'est très dense. On démarre fort et en même temps, on est bien content que voilà, ça recommence. Et en effet, on a une grosse partie des dates de l'Altice du Jazz Festival qui sont reportées sur l'été. Voilà, en partenariat avec, avec pas mal d'acteurs du territoire, dont l'Office de tourisme de Serre Chevalier, la mairie de Briançon, des communes comme Villars et j'en passe. Aussi l'association Cello Sommet pour le festival Violoncelle en Folie. Voilà, on a pas mal de jolies collaborations et donc ça va être dense et ça commence, donc ce sera à raison de 2 dates par semaine sur l'été. On va pas s'ennuyer.
D'accord, un peu d'exemples des artistes qu'on peut entendre.
Donc en effet, il y a une bonne partie d'artistes programmés sur le festival de jazz. Les Poissons Voyageurs, peut-être que ça parlera à certains. Padam Party, Edouard Trio, voilà, c'est très éclectique comme programmation. C'est jazz au sens large, bien entendu. Et après, on va avoir des choses comme sur des reports plutôt de la phase B, en fait, aussi. Comme Dom Lanena, donc, qui est une artiste vraiment montante brésilienne, qui est sur un solo de violoncelle et de chant très, très particulier, qu'on retrouvera dans le cadre du festival Violoncelle en Folie. Et aussi, à ne pas rater, Madalisto Band, un groupe du Malawi, en fait, qui est programmé aussi en coprogrammation avec l'association Kaya dans le cadre du Panorama Tour. Ce sera un concert panoramique perché dans la montagne. Donc il y a plein de belles choses. Il y a aussi un zoom d'artistes pour soutenir les créations locales d'artistes. On vous laisse découvrir après tout le programme sur Internet.
Donc la grande majorité des concerts seront en plein air, donc Covid-proof.
Les concerts, une partie vont se passer donc en collaboration avec l'Office de tourisme de Serre Chevalier, donc ça va être pas mal réparti dans les théâtres de verdure de Serre Chevalier. On ira aussi à la Chape, on va aller aussi dans une cour d'école à Villars. Ensuite, on sera quand même dans une salle au Serre d'Aigle. On espère que qu'on pourra nous accueillir. Et puis ensuite, on sera quand même au col du Granon aussi pour un concert panoramique. Et enfin, il y a aussi pas mal de concerts qui se passent dans les écoles. On accueille 8 groupes, plusieurs groupes en tout cas, dans des écoles du Grand Briançonnais. Et on est content de pouvoir d'avoir pu maintenir en fait ces concerts en école.
Ces concerts sont gratuits ou payants ?
Eh bien, les concerts sont en majorité gratuits et en prix libre. Voilà, il y aura peut-être juste une date, pour Dom Lanena, une date qui sera payante dans le cadre du festival Violoncelle en Folie.
3 mois de découverte musicale à pleine fréquence pour fêter la naissance de Bruit Blanc. Où peut-on retrouver toute cette information ?
Eh bien, l'idéal, c'est de se rendre sur le nouveau site internet www.bruitblanc.net. Et nous avons également un Facebook et un Instagram, Bruit Blanc 05. Vous aurez toutes les informations à jour, même en fonction des reports, en fonction de la météo, etc.
Très bel été à Vitus.
Et oui, merci, on espère vous y voir.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Pas de problème. Merci Olivier. À bientôt.